Un Robinson Crusoé, sortant de son île, n'est pas devenu plus étranger à la marche du monde que ne l'était un prisonnier d'État. Après des années de cachot, Fouquet avait cru, en écoutant Lauzun, qu'il avait l'esprit dérangé. Quand ce fut au tour de ce dernier de reprendre contact avec la vie générale, il eut aussi fort à faire pour se remettre au courant. L'histoire de France s'était allongée d'un chapitre, tandis qu'il enrageait dans son cachot. L'histoire intérieure de la cour, de beaucoup la plus importante, pour un ancien favori, désireux de reprendre pied, aurait rempli un volume de ses complications tragicomiques. À première vue, le chapitre de l'histoire nationale était resplendissant entre tous. La guerre de Hollande avait donné à la France la Franche-Comté, à Louis XIV, une gloire et une puissance qui l'avaient élevé, dans l'opinion européenne, au-dessus de tous les autres souverains. Aux yeux des étrangers, il n'était plus qu'un grand roi. Il était le roi, l'incarnation par excellence de l'idée monarchique. Le prince qui avait fait de la France la dominatrice du monde civilisé.
Jamais dans l'Europe moderne,
dit un historien allemand qui nous considère toujours à travers l'intérêt germanique,
il n'y avait eu un développement de la puissance militaire sur terre et sur mer, pour l'attaque et pour la défense, tel que celui auquel parvint la France pendant la guerre et qu'elle conserva pendant la paix. Jamais encore une seule volonté n'avait exercé un commandement aussi étendu sur des troupes aussi instruites et aussi soumises.
On nous admirait et l'on nous craignait. Louis XIV dit encore Ranke.
Réduisit une partie des princes allemands et tout l'Empire à un degré d'abaissement auquel il n'était jamais tombé. Dans le cours des siècles, l'Espagne se vit menacée par lui de la perte de son indépendance.
L'Europe s'accordait aussi à reconnaître que la France vue du dehors, dans les années qui séparent la paix de Nivelles, 1679, de la révocation de l'édit de Nantes, 1685, ce brillant tableau avait quelques ombres. Les vaincus nous gardaient un profond ressentiment et nos alliés se détachaient de nous sans que l'on réussît à les remplacer. Mais nous jugions de force à supporter notre isolement. Vue du dedans, la France présentait l'apparence de la prospérité à qui vivait les yeux fermés. Il suffisait toutefois de les ouvrir pour s'apercevoir que le temps des vaches maigres approchait. Plusieurs provinces étaient retombées dans la misère. Le mécontentement était général. La désaffection faisait des progrès rapides. On se détachait déjà du pouvoir absolu, si bien accueilli d'abord. Les esprits clairvoyants avait commencé de s'inquiéter 4 ans après la mort de Mazarin et l'arrivée de Louis XIV au pouvoir. Olivier d'Ormesson écrivait « En 1665, après avoir été d'abord, comme tout le monde, sous le charme du jeune roi.
« Aucun n'oserait rien dire, quoiqu'il n'en ait aucun qui ne souffre et qui ne soit au désespoir dans le cœur. Il n'y a personne qui ne dise qu'il est impossible que cela dure, la conduite étant trop injuste et trop violente. »
Olivier d'Ormesson avait des griefs personnels. Il avait été disgracié pour s'être montré trop indépendant lors du procès Fouquet. Et il était d'autre part de ces vieux parlementaires libéraux à leur mode qui regrettaient les privilèges de leur compagnie et qui ne s'accoutumaient point à voir châtier les blasphémateurs du roi, plus durement encore que les blasphémateurs de Dieu. En 1668, un pauvre homme de Saint-Germain, un vieillard, fut
accusé
d'avoir dit que le roi était un tyran et
qu'il y avait encore des ravaillacs et des gens de courage et de vertu.
Il fut condamné à avoir la langue coupée et aux galères.
L'on dit,
ajoute d'Ormesson,
que c'est un supplice nouveau que de couper la langue et qu'on la perce seulement aux blasphémateurs.
Il y a un peu à rabattre en se plaçant au point de vue général de son temps, du témoignage d'Olivier d'Ormesson. Il n'en est pas de même pour celui de Colbert, alors en grande faveur et dur de son naturel. Colbert prévint Louis XIV dès 1666, par un mémoire presque brutal, qu'il menait la France à la ruine par ses extravagances. Le ministre commençait par déclarer qu'il ne lésinerait jamais pour avoir une bonne armée ni une bonne flotte, ou pour soutenir au dehors la politique étrangère de son maître, ou, en général, pour toutes les dépenses utiles dans lesquelles il comprenait les frais de représentation d'un grand souverain. Il affirmait que, pour toutes ces choses, il pousserait plutôt à la dépense, et c'était la vérité. Mais il ne pouvait prendre son parti de l'immense coulage par lequel s'épuisait la richesse publique, des millions gaspillés en ajustements inutiles. Pour des troupes de luxe, en fête d'un prix fou, en perte de jeu insensée, en pension et gratification à tort et à travers, et encore beaucoup d'articles dont l'un mérite quelques détails, car il est curieux, peu connu, et c'est, d'après Colbert, celui qui engendra les conséquences les plus désastreuses. À l'entendre, rien n'a coûté aussi cher à la France sous Louis XIV, après les guerres, que la passion du monarque pour jouer aux soldats devant les belles dames. C'est une manie qui a l'air bien innocente, encore qu'un peu puérile. Colbert en signalait à son maître les effets imprévus. Le roi assemblait des armées pour donner aux dames le spectacle d'un camp ou d'un simulacre de siège. Ou bien les troupes venaient se faire passer en revue par lui dans des endroits commodes pour les dames, au lieu de l'attendre dans leur cantonnement. Il en résultait des marches et passages de troupes perpétuelles et l'épuisement des provinces. Car
« il suffit de dire, » poursuivait Colbert, « que telle ville ou lieu d'étape a souffert depuis 6 mois sans logement différent de troupes et que ceux qui en ont le moins en ont souffert, plus de 50. Toutes les troupes vivent à discrétion en entrant et sortant des lieux où elles logent. C'est à saisir pour connaître clairement qu'elles laissent ces lieux dans l'état où les aurait mis une longue guerre.
Si le roi savait
combien de paysans de Champagne et des autres frontières ont déjà passé et se disposent de passer dans les pays étrangers,
il comprendrait que cela ne peut pas durer. Le plus délicat restait à dire, et Colbert l'abordait courageusement. À faire ainsi la roue devant les dames
un grand ridicule rejaillissait sur la royauté, et les Français n'avaient pas été longs à le saisir, les étrangers non plus. Louis XIV venait précisément d'installer à Mouret un camp tout pimpant et tout bariolé, avec de jolies tentes pour coucher les Amazones.
« L'on dit !»
écrivait d'Ormesson.
« Que l'on fera le siège de Mouret dans les formes pour montrer aux dames la manière de prendre les places. Le chagrin des malcontents, qui est fort général, traite cette revue d'une badinerie pour le roi et d'un jeu d'enfant, et qui n'est pas bien reçu par les étrangers. »
Olivier d'Ormesson n'avait pas grand mérite à se montrer mordant. Son journal n'était que pour lui. Colbert, qui écrivait pour le roi, en eut beaucoup à mettre dans son mémoire.
« Il est encore bon que votre majesté sache deux choses dont on a osé demeurer d'accord quand elle l'a demandé. L'une, qu'il a été affiché dans Paris un libellé portant ces mots. Louis XIV donnera les grandes marionnettes dans la plaine de Moret. »
L'autre était l'apparition d'un libellé encore plus sanglant sur les hauts faits des capitaines pour rire. Le roi lut le mémoire, le relut en présence de Colbert et l'année suivante vit un nouveau camp où la tente royale, composée de 6 pièces somptueuses, était remplie de cavalières fort bien mises, lesquels étaient plus propres à attirer les ennemis qu'à les faire fuir. Colbert n'empêcha pas non plus un seul des grands voyages aux frontières, même en temps de guerre, avec une longue queue de femmes en toilette et des maîtresses pour lesquelles il fallait mettre les maçons en mouvement à chaque lieu d'étape. Louvois écrivait le 7 mars 1671.
Il faut accommoder la chambre marquée V pour Madame de Montespan, y faire percer une porte à l'endroit marqué 1. Madame de la Vallière logera dans la chambre marquée Y, à laquelle il faut faire une porte dans l'endroit marqué 3.
Les frais de porte entrer avec beaucoup d'autres aussi irréguliers dans le budget du ministre de la guerre. Comment y mettre de l'ordre? Comment le limiter? Colbert lui-même avait à faire la part des dames dans son budget de la marine. En 1678, Madame de Montespan eut la fantaisie d'armer un vaisseau en course, un vaisseau du roi, s'entend, avec des matelots du roi. Quelques semaines plus tard, un deuxième et troisième vaisseau, toujours armés en course et aux frais du roi, furent accordés
à Madame de Montespan et à Madame la Comtesse de Soissons.
Tout compte fait, le goût de Louis XIV pour la conversation et la société des femmes, sans parler du reste, a peut-être coûté plus cher à la France que toutes les bâtisses du grand roi mises ensemble. Mais l'un peut se calculer, l'autre ne le peut pas. C'est pourquoi l'on parle toujours des dépenses de Versailles et de Marly, et jamais de ces malheureux paysans qui passaient la frontière après chaque spectacle militaire offert aux dames. Louis XIV était incapable de compter. C'est sa seule excuse. Il est même étrange, par parenthèse, qu'un homme aussi méthodique, ayant un esprit aussi bien équilibré et aussi ordonné, n'ait jamais pu comprendre que les chiffres sont des chiffres et que personne ne peut faire qu'un écu fasse 2 écus. Colbert n'obtint jamais de supprimer un seul gaspillage autour de son maître, même dans les cas où la profusion ne procure aucun plaisir, et nous paraît un luxe de barbare. On sait qu'au XVIIe siècle, les repas étaient plantureux. Ceux de Louis XIV l'avaient toujours été à l'excès. En 1664, le roi, ayant invité le légat du pape à dîner en tête-à-tête avec lui, les assistants avaient compté les plats et on avait trouvé 80, non compris les 38 assiettes ou compotiers du dessert. C'était déjà beaucoup et Colbert avait mis dans le mémoire de 1666 «
Je déclare à votre majesté qu'un repas inutile de 1000 écus me fait une peine incroyable. »
Ce n'était rien en comparaison de ce qu'on vit 15 ans plus tard. Le 16 janvier 1680, Louis XIV maria Mademoiselle de Blois, la fille qu'il avait eue de La Vallière au prince Louis-Armand de Conti, neveu du grand Condé.
Le festin de noces fut royal,
écrivait Bussy Rabutin.
Il y eut 700 plats à une seule table qui furent servis à 5 services, c'est-à-dire 140 plats à chaque service.
Madame de Sévigné nous a fait connaître la morale de l'histoire. La mariée fut malade toute la nuit. On a envie de dire, c'est bien fait. Si, de la nation aigrie et souffrante, on tourne les yeux vers la cour, la différence entre le dehors et le dedans est peut-être aussi marquée, bien que plus difficile à saisir. Le dehors, c'est une splendeur, ce sont des adulations très propres à donner le change. Le dedans, c'est une misère morale profonde, faite de débauche et de mendicité chez les uns, de découragement et d'amertume chez les autres. Madame de Sévigné a peint en 6 lignes, et sans y penser, dans une lettre de 1680, l'état d'avilissement où le roi réduisait systématiquement la noblesse de France, dressée par lui à attraper les bourses au vol. 12 janvier.
Le roi fait des libéralités immenses. En vérité, il ne faut point se désespérer. Quoi qu'on ne soit pas son valet de chambre, il peut arriver qu'en faisant sa cour, on se trouvera sous ce qu'il jette. Ce qui est certain, c'est que loin de lui, tous les services sont perdus. C'était autrefois le contraire.
Si les âmes se sont abaissés sous le règne de Louis XIV, il en a sa part de responsabilité. De même pour les progrès du relâchement des mœurs. Certes, on était habitué avant lui aux maîtresses et aux bâtards. On ne l'était pas à des prérogatives d'épouse en second et d'adultérin légitimé qui encourageait ses sujets à ne pas prendre plus au sérieux les lois que la morale. L'exemple du maître achevait d'obscurcir les consciences naturellement troubles et l'on voyait les maris encourager leurs femmes, les mères, leurs filles, à imiter La Vallière et les Montespan. Louis XIV a d'ailleurs été puni d'avoir voulu jouer au sultan. La polygamie ne va pas sans quelque désagrément dans un pays où il faut compter avec les femmes. Peu d'hommes, fût-ce dans les comédies, ont essuyé autant de scènes de leurs maîtresses et de scènes violentes, humiliantes, autant que pénibles, que ce monarque majestueux, devant qui le reste de l'univers tremblait. Il n'y a plus de roi pour une amante jalouse, et Louis XIV n'a jamais été fidèle qu'à Madame de Maintenon. Il avait été gâté par Louise de La Vallière, qui était la douceur même, et que l'amour inclinait au pardon. Aucune des autres ne l'a jamais aimé, sauf Marie Mancini. Il ne plaisait pas aux femmes, Elle ne se disputait en lui que le roi. Mademoiselle de la Vallière était entrée au Carmel en 1674. Demeurée seule sur la brèche, Madame de Montespan défendit sa situation en lionne. Elle était naturellement aigre, ses colères inexprimables. Au dire des témoins, et Louis XIV n'avait pas pour lui la force que donne l'innocence. Parmi les rivales que Madame de Montespan combattait, beaucoup, en dépit de ses efforts, ont eu leur année ou leur jour. Alors elle s'emportait et le roi pliait le dos sous l'orage.
Elle l'a souvent grondé,
disait plus tard Madame de Maintenon à Mademoiselle. Et il ne s'en est pas vanté. C'était l'expiation. Vint le règne éphémère de Mademoiselle de Fontanges. Elle était aussi en colère et elle traita le roi avec encore plus d'autorité que les autres. Louis XIV appelait Madame de Maintenon à son secours. Elle la chargeait d'aller apaiser ses furies. Les scènes commençaient à le fatiguer. On avait remarqué dès 1675 qu'il aspirait à des instants de repos et de liberté. Madame de Montespan ne sut pas comprendre, avec tout son esprit, qu'il arrive à un âge où les hommes ne peuvent plus supporter de vivre dans la tempête. Et son erreur fut la cause de sa perte. Le roi prit l'habitude de se réfugier chez Madame de Maintenon, où il trouvait une atmosphère de paix et une conversation rafraîchissante. C'était la première fois qu'une femme intelligente lui parlait sérieusement, sans chercher à s'attirer une déclaration, ni à le divertir avec des bagatelles, mais pour le délasser agréablement de son travail. Et aussi pour le faire réfléchir à de certains sujets qu'il n'aimait pas, par exemple à ce qui attend dans l'autre monde le pécheur qui ne s'est pas repenti d'avoir pris la femme d'autrui. Elle lui rappelait qu'il y avait une police dans le ciel, tout comme dans les résidences du roi de France, et elle lui demandait
« Que feriez-vous si l'on venait dire à votre majesté qu'un de ces mousquetaires que vous aimez tant a pris la femme d'un homme vivant et qu'il vit actuellement avec elle. Je suis sûr, dès le soir, il sortirait de l'hôtel et n'y coucherait pas, quelque tard qu'il fût. »
Le roi riait. Il n'avait jamais été plus amoureux de Madame de Montespan. Cela se passait en 1675, avant le jubilé qui les sépara 3 ou 4 mois. Mais il n'en voulait pas à Madame de Maintenon, car déjà, il ne pouvait plus vivre sans elle. Que l'on ait ou non de la sympathie pour cette dernière, il est certain que sans elle, sans l'empire qu'elle sut prendre sur un prince ardent, au plaisir plutôt que véritablement débauché, Louis XIV courait au-devant d'une vieillesse honteuse. À chacun selon ses mérites, la reine Marie-Thérèse était dans le vrai en donnant son amitié à Madame de Maintenon, qui avait obtenu pour elle, sur le tard, des égards et même des procédés affectueux auxquels la pauvre princesse n'était pas accoutumée. Quand le roi eut passé la quarantaine, la tranquillité lui devint un besoin. Il crut s'être assuré la paix en donnant à Madame de Montespan son congé officiel de maîtresse reconnue. On sait la date exacte. Le 29 mars 1679, la comtesse de Soissons fut priée de céder à l'ancienne favorite sa charge de surintendante de la maison de la reine. C'était une sorte de règlement de retraite. Le lendemain, Madame de Montespan écrivait au duc de Noailles pour lui annoncer cet arrangement. Et elle ajoutait
« Du reste, tout est fort pénible ici. Le roi ne vint dans ma chambre qu'après la messe et après souper. Il valut beaucoup mieux se voir peu avec douceur que souvent avec de l'embarras. »
Le monde ne s'y trompa point. 11 avril.
« Je croyais assez, écrivait Bussy, que le roi, juste comme il est, a donné cela pour récompense des services passés. »
De Madame de Scudéry à Bussy, le 29 octobre 1679.
On établit un jeu chez Madame de Montespan pour cet hiver. Et pourvu qu'elle puisse se passer d'amour, elle aura de la considération du roi. C'est tout ce que peut faire un fort honnête homme quand il n'aime plus.
Bussy répondait le 4 novembre.
Si Madame de Montespan est sage, elle ne songera qu'au jeu et laissera le roi en repos sur l'amour. Car enfin, on ne fait pas revenir par des plaintes et des tracas les amants infidèles.
Madame de Montespan n'était pas
sage.
Elle redoublait de scène dans l'espoir de reprendre le roi de force. Au même moment, un passé obscur, rempli de choses vagues et effroyables, se dressait contre elle, et l'expiation de l'avoir trop aimée prenait pour Louis XIV un caractère tragique. On n'a pas oublié la voisin, l'empoisonneuse, ni ce procès de 1668 qui avait révélé au jeune roi les accointances de sa nouvelle maîtresse dans le monde des malfaiteurs. L'affaire étouffée, le mal reprit sa marche souterraine. Les marchandes de filtres et de poisons et les prêtres pour rite satanique virent leur clientèle grandir d'année en année, si bien que lorsque leurs crimes furent découverts et que Louis XIV institua la chambre ardente, 7 mars 1679, pour purifier la France de cette gangrène, tant de Parisiens se sentirent solidaires des accusés que le roi eut contre lui un puissant courant d'opinion. C'est peut-être le symptôme le plus significatif de cette triste affaire. Au lieu d'être écrasé de honte, en apprenant combien des leurs étaient compromis, les hautes classes s'indignèrent contre cette justice égalitaire qui refusait de les ménager. Elles murmurèrent, et pour une fois, le peuple fut avec elles, car le peuple tenait à ses sorcières. La clameur devint si menaçante que les rapporteurs de la chambre ardente ne se sentaient plus en sûreté.
« Je sais, »
écrivait Bussy-Rabutin le 1er avril,
« la chambre faite pour examiner les empoisonnements, et je sais de plus que Madame de Beuson et de la Rénie ne vont point de Paris à Vincennes sans escorte des gardes du roi. »
Louis XIV eut plusieurs fois à rendre du courage aux juges, soit en leur commandant de vive voix
de faire une justice exacte, sans aucune distinction de personne, de condition ni de sexe,
soit en les assurant par lettre officielle
de sa protection.
Les premières exécutions eurent lieu en février 1679. La fournée d'arrestations ou de citations à comparaître, qui fit un tel fracas à cause de sa composition aristocratique, et du 23 janvier 1680, Il y avait alors 4 mois au moins que 2 noms bien connus du roi avaient frappé ses oreilles, pendant qu'il se faisait lire par Louvois les derniers interrogatoires. Qu'est-ce que Mademoiselle des Œillets, ancienne,
suivante ?
De Madame de Montespan, qu'est-ce que Cato, sa femme de chambre, allait faire chez la voisine, et c'est pareil. Ces mêmes noms ayant été prononcés à nouveau, 6 janvier 1680, le roi, tout en déclarant que les témoins avaient certainement menti, ordonna au procureur général, M. Robert, d'avoir beaucoup d'attention à cette particularité. Ce qui fut fait avec ce résultat que Louis XIV en fut bientôt à se demander si la femme qu'il avait adorée entre toutes et qui lui avait donné 7 enfants était une vieille empoisonneuse. Si ce corps parfait pour lequel il avait risqué le salut de son âme avait figuré dans les cérémonies ignobles de l'infâme Guibourg, si non contente de s'en prendre à ses rivales comme d'autres dont il savait à présent les noms, elle n'avait pas essayé, dans un accès de jalousie, de l'empoisonner. Lui, le roi, il cherchait la vérité et ne la trouvait pas. En attendant, il l'emmenait toujours partout et elle lui faisait toujours des scènes. Il était un peu moins patient. C'était toute la différence. Debussy Rabutin, le 18 mai 1680. Le roi, comme il montait en carrosse avec la reine, eut de grosses paroles avec Madame de Montespan sur des senteurs dont elle est toujours chargée et qui font mal à sa majesté. Le roi lui parla d'abord honnêtement, mais comme elle répondit avec beaucoup d'aigreur, sa majesté s'échauffa. Le 25, Madame de Sévigné enregistre une autre extrême brouillerie. Colbert les raccommoda. La situation était poignante. On possède une longue série de lettres et de mémoires où l'araignée discute à l'intention du roi les charges accumulées contre Madame de Montespan. C'est le tableau des doutes et des fluctuations d'un honnête homme que sa responsabilité angoisse et qui voit un égal péril à déshonorer le trône et à laisser auprès du roi une femme qu'il lui est impossible de croire tout à fait innocente. Louis XIV passait à sa suite par les mêmes alternatives. Plus on allait, plus les présomptions devenaient fortes, sans qu'on eût jamais aucune preuve décisive. Le 12 juillet 1680, la reine résumait pour son maître d'histoire du placé dont on devait se servir pour empoisonner le roi. Le 11 octobre, il déclarait qu'il s'y perdait et suppliait sa majesté d'examiner s'il était du bien de son état, de rendre ses horreurs publiques. Au mois de mai suivant, il avouait avoir été induit en erreur sur plusieurs points et y voir plus trouble que jamais. Le merveilleux empire de Louis XIV sur lui-même l'empêchait de se trahir. Mais l'on se représente ses incertitudes, ses combats intérieurs et, il faut l'espérer, sa honte et ses remords devant ce châtiment de ses fautes. Madame de Montespan, de son côté, malgré le secret absolu et bien merveilleux aussi, gardé par la justice et la police, ne pouvait pas ignorer que Mademoiselle des Œillets avait été interrogée, confrontée et finalement enfermée pour le reste de ses jours à l'hôpital général de Tours. Madame de Montespan savait donc qu'elle avait été dénoncée, mais dans quelle mesure? Et qu'en pensait le roi? Quelle rencontre entre ces deux êtres? Quels entretiens passaient à s'observer et à dissimuler? Cependant, la vie de cour tournait dans son cercle monotone, et Madame de Montespan y figurait toujours aux places d'honneur. En mars 1680, elle vint au devant de la dauphine avec le reste de la cour, et c'est elle que l'on charge du choix et de l'arrangement de ce que nous appellerions la corbeille.
« Est-on la femme du monde ?»
écrivait mademoiselle, « qui se connaît le mieux à toutes choses. » En juillet, le roi l'emmène à Versailles, avec sa sœur, Madame de Thianges, et sa nièce, la belle duchesse de Nevers, que sa mère et sa tante offrent cyniquement au monarque, en février 1680.
On ouvre une loterie chez Madame de Montespan, dont le gros lot sera de 100 000 francs, et où il y en aura 100 autres, de chacun 100 pistoles.
En juillet 1682, la chambre ardente est supprimée brusquement. Sur plus de 300 accusés, 36, gens de rien ou de pas de grand-chose, avaient été exécutés. Une centaine envoyés aux galères ou en prison ou dans des couvents ou en exil. Les accusés de marque s'en tireront toujours à bon compte. Les cachots de Paris et de Vincennes était encore bondé. On relâcha le fretin et l'on répartit le reste, sans autre forme de procès, entre diverses prisons de province, pour y attendre une mort qui se faisait rarement attendre. De Louvois à M. Chauvelin, intendant le 16 décembre 1682, en lui annonçant l'un de ses convois.
Surtout, « recommandez, s'il vous plaît, à ces messieurs d'empêcher que l'on entende les sottises qu'ils pourront crier tout haut. Leur en était souvent arrivé d'en dire, touchant Madame de Montespan, qui sont sans aucun fondement, les menaçant de les faire corriger si cruellement au moindre bruit qu'ils feront, qu'il n'y en ait pas un qui ose souffler. »
Cette lettre est l'épilogue de l'affaire des poisons, en ce qui touche Madame de Montespan. Elle était sauvée. Que ce fût manque de preuves ou raison d'état, refus de Louis XIV d'en croire un abbé Guilbourg et un Lesage, ou influence sur lui de sa vieille tendresse, les quelques hommes qu'il avait fallu mettre dans le secret furent si parfaitement muets que les contemporains ne soupçonnèrent rien. Ils virent l'ancienne favorite demeurer à la cour, un peu délaissée, mais rêvant toujours d'une revanche, et gardant un certain crédit, une certaine influence, ainsi qu'en témoignent à chaque page les mémoires de mademoiselle. Tout cela était dans l'ordre. Sur ce que pensait Louis XIV, au fond de son âme, nous possédons un seul indice, une lettre de lui à Colbert, l'un de ceux qui savait tout. Mademoiselle avait prié Madame de Montespan de solliciter, on ne sait quelle grâce, en faveur de Lauzun. Le roi chargea Colbert de répondre pour lui. Octobre 1681.
Vous lui expliquerez en termes honnêtes que je reçois toujours les marques de son amitié et de sa confiance avec plaisir, et que je suis très fâché quand je ne saurais faire ce qu'elle désire, mais qu'à cette heure, je ne saurais rien faire de plus que ce que je n'ai fait.
Il la croyait innocente, ou il lui avait pardonné.